Frères et sœurs en Christ, le temps où nous pourrons nous retrouver physiquement ensemble pour célébrer le Seigneur n'est plus loin, même si personne à ce jour ne peut dire quand exactement. En attendant, c'est dans la reconnaissance au Seigneur de l'univers, à son Christ qui s'est soumis toute puissance, pouvoir et autorité, et à l'Esprit qu'il nous a envoyé pour nous conduire, que nous rendons grâce et gloire ce matin. La tour de Babel, cela vous rappelle-t-il quelque chose? Oui, c'est les hommes qui, par orgueil, voulaient se faire un nom et atteindre les cieux, sans doute pour prendre la place de Dieu. Le Seigneur les confondit dans une confusion de langues et les dispersa. Pentecôte, initiative de Dieu, c'est l'inverse. C'est Dieu qui rassemble une grande diversité dans une unité. C'est l'œuvre du Saint-Esprit commencée à la Pentecôte. Justement, l'Église célèbre la fête de Pentecôte aujourd'hui. Pentecôte qui nous rappelle que le Seigneur Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite de faire habiter son Esprit dans les hommes. Que la grâce, l'amour et la paix nous soient donnés de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, on peut se demander combien de nationalités dans notre communauté. Il y en a certainement beaucoup. Alors, quelle diversité dans les origines, les professions, les âges, les cheminements spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous réunit dans une même famille, la famille de Dieu. Voilà pourquoi, en commençant ce culte, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu qui nous a unis en chantant « C'est toi, Seigneur, qui nous unis, arc-en-ciel 208 ».
C'est toi, c'est...
Ta part.
Prions le Seigneur. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours. Il a dit, « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et il l'a accompli. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a dit, « Je prierai le Père, qui vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeure en vous et qui sera avec vous. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Béni soit le Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Béni soit-il qui vient en aide à notre faiblesse et qui lui-même intercède pour nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Christ de toute bénédiction spirituelle. C'est par le Fils que les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. À lui soit la gloire. Amen. Le Seigneur mérite notre louange. En effet, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme en est devenu esclave et n'a donc plus été en mesure de vivre la vie de Dieu, la vie en Dieu. À moins que Dieu lui-même lui vienne en aide. C'est pourquoi depuis des temps anciens, Dieu a promis de faire don du Saint-Esprit à l'homme, afin que son esprit fasse son habitation dans l'homme, et que sa volonté, sa loi à lui, Dieu, soit inscrite dans le cœur même de l'homme. Dieu a manifesté sa fidélité sur toute la ligne en envoyant son propre Fils et son Esprit comme nous le célébrons ce jour. Les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu, louons le Seigneur en chantant deux cantiques à la suite. Cieux ouverts et ô le nom si merveilleux de Hillsong.
Par des signes et des miracles, tu démontres ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend. Chante ton amour, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange. Quand je chante ton amour, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus, viens Esprit de Dieu. Brûle comme un feu qui consume, consume-moi dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume. sa gloire, pour ta gloire, fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi. Je chante ton amour, Saint-Esprit en moi, mon cœur et mon âme, quand j'invoque ton nom.
Ce nom est victorieux.
sans pareil, en ce nom et victorieux, le nom de Jésus. En ce nom et victorieux, le nom de Jésus. En ce nom et victorieux, le nom de Jésus.
Nous allons prier le psaume 105, du premier verset au verset 15. Mais rappelons-nous, tout le psaume chante la fidélité de Dieu manifestée à son peuple au cours de son histoire. Ce psaume dit la fidélité de Dieu à son alliance. Il mérite notre reconnaissance et notre louange. Prions. Histoire de la fidélité de Dieu. Célébrez le Seigneur, chantez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui. Jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis, c'est lui le Seigneur, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il a établi cela comme une prescription pour Jacob, comme alliance perpétuelle pour Israël, en disant « Je te donnerai Canaan comme le patrimoine qui vous est échu. » Ils étaient alors un petit nombre d'hommes, une poignée, et ils séjournaient là en immigrés. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne laissa aucun humain les supprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. « Ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Amen. Frères et sœurs, il importe que nous puissions écouter la volonté de Dieu à notre endroit. Et ce matin, c'est dans l'Épître aux Corinthiens que nous relevons cette volonté. Vous êtes le temple. Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Voici une parole lourde et profonde. Moi, toi, nous sommes chacun l'habitation du Saint-Esprit. En sommes-nous toujours conscients, frères et sœurs? Sommes-nous aussi conscients de leurs implications dans la vie du quotidien? Prions ensemble. Seigneur, gloire, puissance et honneur à toi qui ne cessera jamais de nous étonner. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, Dieu créateur et tout-puissant. Pardonne-moi, pardonne-nous de ne pas toujours être conscients de cela. Dans ta grâce immense, tu nous as donné ta parole. Nous avons entendu cette parole, mais nous l'avons peu suivie. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais en réalité, il est souvent resté loin de notre vie et nous avons manifesté très peu de fruits de l'Esprit. Nous avons appelé les autres à la paix et à la joie, mais sans être paisibles ni joyeux nous-mêmes. Seigneur, il y a si peu d'amour sur la terre parce que nous sommes paresseux. La liberté est rare parce que nous avons méprisé celle que tu donnes. Parfois la haine envahit le monde grâce à notre lâcheté. Et n'ayant pas cherché ta parole pour affermir notre foi, ni ta force pour suppléer à nos faiblesses, nous sommes devenus faibles. Aie pitié de nous, Seigneur, et renouvelle-nous par le Saint-Esprit en vue de ton service. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à prolonger notre prière en chantant ensemble « Viens, Esprit de Dieu, j'aime 364 ». Accueillons maintenant les paroles de grâce. Que le Dieu de miséricorde nous accorde son pardon et nous rende capables de faire sa volonté, lui qui avait dit, par la bouche du prophète Jérémie, « Voici l'alliance que je ferai, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai non plus sur des tables de pierre, mais dans leur cœur. » Amen. Et maintenant, nous allons laisser la place aux enfants pour écouter le message qui leur est préparé par David.
Bonjour les enfants. Avant de commencer l'histoire que je veux vous raconter, j'aimerais faire un petit rappel de ce qui s'est passé tout au début de la Bible. Dans les premiers chapitres de la Bible, tout au début de la Genèse, on voit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il parlait avec eux dans une même langue. Adam et Ève comprenaient ce que Dieu disait. La langue leur permettait d'être proches de Dieu. Grâce à elle, Dieu leur exprimait son amour et leur disait ce qu'il attendait d'eux pour que tous ensemble, ils puissent vivre en bonne relation dans un amour parfait. Ça devait être merveilleux. Mais nous savons ce qui est arrivé ensuite. Le serpent est arrivé, et par sa parole, il a poussé les êtres humains à faire ce qui était mal. En somme, le serpent a traité Dieu de menteur, et Adam et Ève l'ont cru, en mettant leur confiance dans sa parole plutôt que dans celle de Dieu. C'est alors que la relation parfaite qui existait entre l'homme, la femme et Dieu, s'est brisé. Le péché, c'est ça. C'est accorder une plus grande importance aux mots des autres qu'aux mots de Dieu. À partir de ce moment, à quelques exceptions près, les êtres humains ont toujours accordé plus d'importance aux mots des hommes qu'aux mots de Dieu. Et parce qu'ils parlaient une même langue, les êtres humains se rapprochaient les uns des autres tout en s'éloignant de Dieu. Ils se croyaient les maîtres du monde. Ils étaient pleins d'orgueil. Ils se disaient qu'ensemble, ils pouvaient tout accomplir, qu'ils pouvaient tout faire. C'est à ce moment qu'intervient l'histoire de la Bible que je veux vous raconter. Vous la trouverez dans le chapitre 11 de la Genèse, les versets 1 à 9. L'histoire commence ainsi. À cette époque-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens voyagent vers l'est et décident de s'arrêter dans une vallée. Ils disent « Allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester ensemble. » Ils travaillent très dur. Ils disent « Faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ainsi, ils commencent à construire une ville et une tour en son milieu. Et ils veulent que la tour arrive jusqu'au ciel. Plein d'orgueil, ils pensent « Nous sommes devenus un peuple grand et solide comme cette tour. Rien ne pourra nous arrêter. » Alors, Dieu descend du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes sont en train de construire. Dieu dit « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique. » Et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, embrouillons leur langage et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu mélange leurs langues et disperse les hommes sur toute la terre. Et les hommes sont alors bien obligés de stopper leur construction. On pourrait penser que mélanger leurs langues est une punition bien cruelle de la part de Dieu. Mais il n'en est rien. C'est plutôt une marque de bonté de sa part. Puisqu'à cause de la langue, les hommes s'éloignaient de lui et allaient de plus en plus loin dans le mal qu'ils faisaient, il valait mieux pour eux qu'ils ne se comprennent plus. Ici s'arrête mon histoire. Alors, les enfants, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai raconté cette histoire ce matin? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Il est spécial parce que aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte, c'est-à-dire que nous fêtons le jour où Jésus a envoyé sur terre son esprit pour qu'il remplisse tous ceux qui croient en lui et les aide à toujours être plus proches de Dieu. Le début du livre des Actes nous raconte ce qui s'est passé lorsque Jésus a répandu son esprit. Le Saint-Esprit s'est d'abord posé sur les apôtres sous la forme de langues de feu. Les apôtres se sont mis alors à parler dans une langue que tout le monde pouvait comprendre. Voyez-vous le rapport avec l'histoire que nous venons de voir? Ce qui s'est passé à la Pentecôte est l'exact opposé de ce qui s'est passé dans l'histoire de la tour de Babel. À la tour de Babel, Dieu a changé la langue des hommes pour les disperser. Alors qu'à la Pentecôte, par une langue que tout le monde pouvait comprendre, Dieu les a rassemblés. Et Dieu a rassemblé les hommes pour une chose très importante. Il les a rassemblés pour que l'apôtre Pierre puissent leur parler de Jésus-Christ, et qu'environ 3000 d'entre eux mettent leur foi en lui. À la Pentecôte, Dieu dit aux hommes qu'il est bon d'être ensemble, qu'il est bon de parler la même langue, mais seulement à la condition d'avoir mis sa confiance en Jésus-Christ. Mettre sa confiance en Jésus-Christ est ce qui permet de réparer ce qui a été brisé lorsque l'homme a choisi de faire confiance aux paroles du serpent plutôt qu'à celles de Dieu. Mettre sa confiance en Jésus est ce qui permet à l'homme de redevenir proche de Dieu, comme il l'était lorsqu'il vivait auprès de lui dans le jardin d'Éden. Mettre sa confiance en Jésus, c'est pouvoir à nouveau se servir de sa langue, de ses mots, comme des instruments pour servir Dieu et faire le bien. Alors, les enfants, avec votre langue, avec vos mots, je vous invite à dire à tout le monde, à 1,5 mètre de distance, que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Je vous invite à présent à la prière. Et c'est Mireille qui va prier pour nous ce matin.
Les enfants, qu'est-ce qu'on fait avant de prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous te disons merci car tu es bon. Merci pour les enfants que tu nous as donnés dans notre communauté. Merci encore notre Dieu de les avoir fait grâce d'écouter ta parole. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte qui est un jour spécial pour nous, les chrétiens du monde entier. C'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son esprit comme il avait promis, afin qu'il y remplisse tous ceux qui croient en lui pour les guider à être toujours proches de toi. Seigneur, nous te prions d'aider ces enfants à mettre en pratique ta parole et protège-les contre toutes sortes de maladies quand ils vont retourner à l'école. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, nous sommes à la recherche de ta présence dans le chaos de nos vies. Ta parole est la lumière dont nous avons besoin pour trouver notre chemin dans ce monde. Touche nos cœurs et donne-nous la sagesse de comprendre le message que tu veux porter à chacun de nous. Amen. La première lecture se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » La deuxième lecture se trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 8 à 17. Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie de votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire.
Frères et sœurs, je vous invite à chanter « Souffle, j'aime 501 ».
Frères et sœurs en Christ, bonne fête de Pentecôte. En effet, aujourd'hui, 50 jours après Pâques, l'Église célèbre le jour où Dieu avait accompli la promesse faite par l'entremise des prophètes, selon laquelle, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Vous avez reconnu là le prophète Joël et le prophète Jérémie. Ce dimanche-là, à Jérusalem, c'était une fête juive, la deuxième des trois solennités annuelles, c'est-à-dire Pâques, la fête des semaines ou Pentecôte et la fête des tabernacles. Et tout Israélite devait se présenter devant le sanctuaire. Il y avait donc du monde à Jérusalem ce dimanche-là. Le petit groupe des disciples qui attendait l'arrivée du Saint-Esprit dans la prière fut émerveillé par des manifestations remarquables. Un bruit de vent impétueux, des langues de feu sur chacun d'eux, une puissance et une assurance pour dire les merveilles de Dieu dans la langue de tous ceux qui étaient alors présents. Nous-mêmes, à la lecture de ce récit dans le livre des Actes, quand nous entendons ce récit de la première Pentecôte, ne sommes-nous pas émus, émerveillés? Waouh, c'est merveilleux. Dans certains milieux chrétiens, lorsqu'on compare le vécu d'aujourd'hui avec ce qui s'est passé alors, on est soit très vite triste et dans un regret permanent et dans une nostalgie permanente, soit on se dit « tout cela c'est du passé » et cela se justifiait à l'époque et plus maintenant. Je pense quant à moi que l'une et l'autre attitude ne sont pas satisfaisantes. On ne peut pas passer toute sa vie dans les lamentations et pendant ce temps, la vie s'écoule. Ni trop facilement enfermer l'action de l'esprit dans le passé en dépit de la pauvreté spirituelle que l'on peut vivre présentement. Pourquoi ne vivons-nous pas aujourd'hui ces expériences-là du Saint-Esprit de la même manière que la primitive Église, peut-on se demander? Mais d'un autre côté, est-ce la bonne question à poser dans la mesure où tout le Nouveau Testament ne nous dit pas que cette expérience-là s'est reproduite exactement de la même manière? Cette expérience étant l'inauguration d'une nouvelle ère à ses particularités non reproductibles. La vie nous enseigne en effet qu'il y a des expériences non reproductibles. Allez, prenons un exemple tout simple. Lorsque on peut inaugurer dans un pays pour la première fois qui s'engage dans le lancement de satellites, on aura certainement un moment solennel, parce que c'est unique, c'est inédit. Cet exercice ne pourra pas se répéter à chaque occasion. On devrait plutôt se poser la question, et ce sera d'ailleurs le thème de notre méditation ce matin, en dehors des particularités relatives aux époques et aux lieux, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit qui est commune à tous les chrétiens de toutes les époques et de tous les lieux. Oui, ce sera la question qui va nourrir notre méditation. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit qui est commune à tous les chrétiens de toutes les époques et de tous les lieux? Alors, pour répondre à cette question, nous nous limiterons à ce que nous avons lu ce matin dans l'Épître aux Romains. Permettez-moi néanmoins d'utiliser la métaphore de la maison appliquée à notre vie pour faciliter la compréhension de ce passage un peu difficile à saisir. Nous sommes dans un village où il n'y a ni électricité, ni gaz, ni eau courante. Les gens s'éclairent à l'huile, se chauffent et préparent au bois. Il n'y a pas de chauffage central. Ils vont chercher de l'eau à quelques kilomètres de là. Dans ce village, un fournisseur d'énergie, sans foi ni loi, règne en maître et impose sa loi et ses prix. Il ne tolère aucune contestation. Il tyrannise la population, fort de son pouvoir économique et financier. Ainsi va la vie dans ce village. Jusqu'au jour où, un nouveau maître débarque avec plus de moyens que le premier. Il construit une centrale électrique et gazière, une installation des câbles et des tuyaux pour la fourniture en eau courante, en gaz et en électricité reliée à toutes les maisons. L'inauguration est faite en pompe, avec démonstration sur la grande place du village. Il promet d'être présent dans toutes les maisons pour initier à la nouvelle vie. L'ère d'une vie nouvelle a commencé. L'offre est gratuite pour tous. La seule condition, oui, puisqu'il y a une condition, est d'en faire la demande et d'accepter d'être initié à la nouvelle manière de vivre. Certains, en entendant cela, font la demande immédiatement. L'activation est faite sur le champ. Ils jouissent progressivement des bienfaits apportés par le nouveau maître. D'autres hésitent, d'autres ont peur de faire la demande, d'autres n'y croient pas du tout. L'ancien maître ne s'avoue pas vraiment vaincu pour autant, car il menace, il fait une mauvaise publicité au nouveau maître. Ce qui est certain, c'est que l'ancien et le nouveau maître cohabitent dans le même espace. Tous sont appelés à la vie nouvelle, quelques-uns l'ont choisi, d'autres ont peur. D'autres encore dans ce village hésitent, d'autres n'en voient vraiment pas du tout l'urgence. Chaque maison représente une vie, ma vie, ta vie. Le village représente une communauté. L'ancien maître représente la chair, c'est-à-dire les mauvais penchants qui résistent ou s'opposent à la volonté de Dieu en nous. Le pouvoir tyrannique, dominateur. Le nouveau maître représente le Saint-Esprit envoyé par le Père et par le Fils pour nous offrir une vie nouvelle, meilleure, nous rendre capables de vivre la volonté de Dieu. Il nous suffit d'accueillir le nouveau maître et de collaborer avec lui afin qu'il déploie toute la puissance de vie pour nous transformer radicalement et nous faire jouir de tout le potentiel de vie qu'il nous apporte. Vu de la sorte, qui peut refuser une telle offre? Normalement, personne. Et pourtant, l'expérience nous révèle la dure réalité. Voyons, à partir de Romains 8, l'œuvre de l'Esprit dans le chrétien en trois points. Le premier, ce sera le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en le chrétien. Le deuxième point, le Saint-Esprit qui conduit le chrétien. Le troisième point, le Saint-Esprit témoigne à l'esprit, à l'être intérieur du chrétien, de la filiation divine. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le chrétien. L'apôtre, dans l'épître que nous avons lu, nous dit: Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, par l'esprit qui habite en vous. Fin de citation. Frères et sœurs, nous sommes en présence d'un mystère, le Saint-Esprit. Et Dieu, créateur de l'univers, tout-puissant, il choisit de faire sa demeure dans le chrétien. signe que ce dernier appartient à Christ ressuscité. Et cette présence signifie un cadeau d'une présence permanente, avec l'accord de l'autre, de celui qui accueille, bien entendu. Le Saint-Esprit, en faisant sa demeure en le chrétien, veut avoir une influence permanente, pénétrante. Il ne veut pas faire de la figuration. Il désire une communion vraie. Cela implique une relation suivie et non quelque expérience ponctuelle ou superficielle. Il ne veut pas vivre dans le chrétien malgré ce dernier, mais il voudrait que son hôte réponde à ses sollicitations. Le Saint-Esprit vient nous aider à vaincre les sollicitations de la chair, de cet ennemi redoutable, tyrannique, dominateur. Le Saint-Esprit vient avec la puissance qu'il a déployée pour ressusciter le Christ dans le but d'opérer en nous, le chrétien, des résurrections multiples face aux anciennes habitudes imposées par l'ancien maître. Dans la métaphore de la maison, pensez au nouveau maître qui apporte une énergie nouvelle, de l'eau courante, et cela gratuitement. Pensez aussi que l'ancien maître n'est pas éliminé, il est toujours présent, quoique faible par rapport au nouveau. Et pourtant, il continue à faire croire aux villageois qu'il est encore et toujours plus fort. Le comble, c'est qu'il y a encore des gens qui croient en lui. Les deux maîtres, disais-je, cohabitent, et chacun d'eux sollicite le chrétien. Le chrétien a le choix de lui obéir ou d'écouter le nouveau maître. Ce nouveau maître, le Saint-Esprit, offre une vie centrée sur le Christ ressuscité, et cette autre vie devient alors possible. Deuxième point, le Saint-Esprit conduit le chrétien. Et je cite la parole de l'apôtre, « En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Oui, celui qui habite le chrétien, c'est celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts avec toute la puissance de vie qui le caractérise, avec le même dynamisme, la même dynamique de vie. C'est important de savoir que le Saint-Esprit habite en nous. Mais c'est encore plus important qu'il soit actif, opérationnel, qu'il ne soit pas gêné dans son action. Tel un guide conduit un étranger en terre inconnue, tel est l'Esprit. Il désire conduire le chrétien dans le combat et la victoire. C'est important de savoir qu'il conduit le chrétien dans la connaissance de Dieu, de lui-même et des autres. Il le conduit dans l'amour de Dieu, du prochain et de lui-même. Il le conduit dans l'espérance et la foi. Que son action soit explosive, spectaculaire, c'est-à-dire par des visions, des miracles, des prophéties et autres, ou que son action soit discrète, cette nouvelle vie doit être visible. En effet, celui qui habite le chrétien n'est pas un dépôt statique, un objet statique, mais un vivant qui fait vivre, qui met en mouvement. Il donne une orientation à la vie, il fait avancer dans le sens de la volonté qui plaît à Dieu. La poussée de l'esprit ne réduit pas à néant l'engagement et la responsabilité du chrétien. La conduite du Saint-Esprit ne relève pas d'une contrainte irrésistible. L'esprit nous respecte, il anime, il ne se substitue pas à nous. Nous sommes en mesure de l'attrister. Il nous sollicite. C'est pourquoi lui qui désire notre bien suprême, lui qui est amour, est attristé quand nous lui désobéissons. Mais demandons-nous, comment il nous conduit? Eh bien, très simplement, il nous conduit par la parole de Dieu, cette parole lue, méditée, étudiée, prêchée, entendue, priée. C'est lui qui a inspiré les auteurs sacrés, c'est lui qui nous assiste quand nous lisons cette parole. Il l'éclaire pour nous, l'actualise. Nous nous sentons concernés par ce que nous lisons ou entendons. Il nous interpelle, nous interroge, nous reprend, nous rassure, nous invite à la confiance, à la prière. mais aussi nous conduit par les circonstances, par d'autres moyens, à savoir les visions, les songes, les prophéties, etc. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu. On se comporte réellement en fille et en fils de Dieu quand on est attentif aux motions de l'Esprit. Pour revenir à la métaphore de la maison, le nouveau maître veut dans notre maison nous conduire à découvrir cette nouvelle manière de vivre, nous montre comment éviter les pièges et les dangers, mais surtout nous apprend à bien vivre et apprécier les bienfaits de la vie nouvelle. Troisième point, le Saint-Esprit témoigne de la filiation du chrétien. Je cite encore l'apôtre, « Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Frères et sœurs, l'adoption nous fait penser à des enfants orphelins, des enfants abandonnés qui trouvent un nouveau foyer qui désire les accueillir, les reconnaître pleinement comme leurs enfants. Une expérience où se mêlent la souffrance, l'attente, l'émotion, les méprises, les joies, les combats, l'échec parfois, la consolation souvent. Mais quand l'apôtre Paul, dans cet épître, parle d'adoption, il pense moins à l'adoption d'enfants qu'à l'adoption d'adultes. Cela nous paraît curieux aujourd'hui, mais c'était une pratique romaine de son époque. Ceux qui ont vu le film Judas Ben-Hur peuvent s'en faire une idée. Dans ce film, Ben-Hur est un juif, condamné à l'esclavage dans les galères romaines. À l'occasion d'une bataille maritime, il sauve la vie du commandant du navire, un général romain. Par reconnaissance et par amitié, ce général l'adopte alors comme fils. Désormais, Ben-Hur jouit de tous les droits et de tous les devoirs d'un fils de Romain. Il porte l'anneau donné par son nouveau père. Il devient héritier de ses biens et de sa renommée. Eh bien, le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qu'il est notre papa. Ce n'est donc jamais de l'autosuggestion, une sorte d'autoconviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela signifie trois choses. L'adoption est donc une grâce, une formidable grâce, un cadeau extraordinaire. L'enfant ou l'adulte adopté est auparavant dans une situation difficile, précaire, privée de l'affection et du soutien d'une famille. L'adoption lui ouvre des portes extraordinaires pour une vie nouvelle possible. Et cela se fait de façon délibérée, unilatérale, généreuse, par les parents qui choisissent d'adopter. La personne adoptée ne passe pas d'examen ou de concours, elle n'a pas à payer ni rembourser quelque chose, elle est accueilli comme est accueilli un enfant qui naît. C'est comme nous, les hommes. À cause du péché, nous sommes ennemis de Dieu, esclaves du tyran, maître qu'est le péché. Malheureux spirituellement, loin de Dieu, de son intimité. Dieu, notre Papa, nous offre la possibilité de mener une autre vie que nous ne méritons pas. Cela ne veut pas dire que les parents n'aient pas d'attente vis-à-vis de l'enfant. Bien sûr, ils espèrent profondément quelque chose de ce nouvel enfant dans lequel ils mettent tout leur désir. L'adoption est pour eux aussi une formidable aventure sur la vie. Mais le pouvoir de donner vie de s'engager dans ce projet d'appeler ce nouveau lien familial et au moins au départ entièrement de leur côté. La deuxième chose que signifie l'adoption signifie partage d'une intimité. Oui, Dieu nous adopte donc pour nous donner une vie nouvelle et nous proposer de partager l'intimité d'une présence auprès de nous. Dans le christianisme, on a parfois eu cette image de Dieu assez écrasante, exigeante, peu sensible à nos difficultés humaines. En parlant de l'esprit d'adoption que Dieu nous donne, l'apôtre Paul souligne au contraire l'intimité possible avec Dieu. On peut lui parler avec confiance de tout, de mes joies, de mes peines, de mes doutes, de mes peurs, de mes difficultés à vivre, de tout. Il devient mon confident, comme un père, comme un papa. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est très poignant de voir que dans le moment de la plus grande épreuve, alors que Jésus commence à être très angoissé, l'intimité avec ce papa du ciel se manifeste encore plus fortement. L'esprit d'adoption n'est pas seulement une intimité pour les bons moments, pour les moments de tendresse ou de détente heureuse que nous pourrons avoir avec Dieu. Ce serait déjà beaucoup, cette intimité. Mais l'esprit d'adoption donne de vivre une intimité avec Dieu jusque dans les moments difficiles, jusque dans les moments où l'on est tenté de croire que Dieu s'est absenté et nous a abandonnés. Troisième sens de l'adoption est responsabilité dans le monde. Être adopté, en effet, c'est devenir enfant, héritier, membre d'une famille qui prend sa place parmi les autres familles de la société, responsable de prendre soin des personnes, de maintenir les valeurs et de gérer les biens de cette famille. Ainsi, l'esprit d'adoption nous fait entrer dans une responsabilité nouvelle, que Dieu nous confie comme un père confie une responsabilité à ses enfants. Une responsabilité qui n'est pas une tâche écrasante, ni un privilège qui nous rendrait arrogants, mais une responsabilité qui devient possibilité parce que nous savons tout ce que nous devons à Dieu et parce que nous vivons dans son intimité. Ainsi, l'esprit d'adoption nous fait tourner les yeux vers ceux qui souffrent pour y reconnaître des bien-aimés que Dieu veut bénir. Ainsi, l'esprit d'adoption nous fait rencontrer ceux qui sont sans but et sans espoir pour y reconnaître des bien-aimés que Dieu veut rendre à la vie. Ainsi, l'esprit d'adoption nous fait voir les dysfonctionnements des sociétés humaines et les dégradations de l'environnement pour y reconnaître la création de Dieu en souffrance, en attente de libération. C'est comme la grâce qui est donnée. Elle peut être accueillie, elle peut tomber le long du chemin, dans un endroit pierreux, dans les épines ou dans la bonne terre. Le chrétien a le statut d'enfant de Dieu. La filiation s'établit par rapport à l'esprit. Il y a une perspective d'intimité avec Dieu dans ces versets grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelons-nous quand même, tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Être conduit par l'Esprit, c'est le privilège des enfants qui sont dans l'intimité de Dieu, de leur Père. Nous sommes des enfants qui n'avons pas reçu un esprit de servitude, d'esclavage, mais d'adoption, de filles et de fils de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans une relation nouvelle avec Dieu. Il est Abba, Papa. C'est un témoignage intérieur de l'Esprit. Frères et sœurs, tous les chrétiens devaient vivre avec la conscience d'être l'habitation du Saint-Esprit, d'être conduits par lui, d'être des enfants adoptifs du Père grâce au ministère du Saint-Esprit en eux. Ils devraient être heureux vainqueur du mal. Il devrait porter beaucoup de fruits de l'esprit. Mais est-ce ainsi que vivent tous les chrétiens? Hélas, non. Alors il y a quelques obstacles sur ce chemin et ce sera un véritable défi que de surmonter ces obstacles que je cite tout simplement. Il y a l'ignorance, il y a la paresse, il y a la peur, il y a l'incrédulité. Que l'esprit d'adoption, l'esprit qui a choisi de faire de nous son habitation, l'esprit qui nous conduit, nous aide à lui laisser toute la place pour que nous puissions expérimenter encore davantage en ce jour de Pentecôte et dans les jours qui viennent la réalité de son ministère dans notre vie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.
Frères et sœurs, à présent, joignons-nous à la chorale pour chanter ensemble, tous unis, Arc-en-ciel 369.
Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux, gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour. Saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints.
Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession, frères et sœurs. Père, Papa, en ce jour où tu as répandu l'Esprit Saint sur tes disciples, nous te louons. Nous te bénissons pour la prédication de ta parole et pour l'assurance que tu nous y donnes de ta victoire sur toutes les puissances du mal. Nous te prions pour le monde, pour notre pays, pour l'Église et pour nous-mêmes. Que ton esprit d'humilité fasse de nous des serviteurs de tous, et en particulier des petits, des humbles, des délaissés et de ceux qui sont opprimés par toutes sortes de misères. Que ton esprit consolateur assiste tous ceux qui sont meurtris par la vie, par la maladie et par les événements actuels. Qu'il les garde et qu'il nous garde de toute amertume. Qu'il maintienne vivante en nous et en eux la flamme de l'espérance. Que l'esprit de sainteté nous purifie des mauvaises pensées, de la haine et de toute passion mauvaise. Que l'esprit d'amour nous garde du fanatisme, qu'il nous aide à aller les uns vers les autres, à nous écouter et à chercher ensemble ce qui est juste et bon pour l'aujourd'hui que tu nous donnes de vivre. Que l'esprit de sagesse donne aux hommes d'État, aux gouvernants, aux divers responsables et à tous les citoyens une intelligence lucide en vue des choix qui nous attendent et que le monde attend de nous. Que l'esprit créateur suscite partout une nouvelle vie, qu'il rende fécond les ferments de renouveau qui sont apparus au milieu des événements actuels. Que ton esprit de vérité conduise l'Église dans toute la vérité et qu'il lui permette de garder et d'annoncer fidèlement ton évangile. Qu'ainsi la paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers, dans notre peuple et partout dans le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le même Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et voici quelques annonces. Bientôt, on peut envisager la possibilité de commencer tout doucement les rencontres physiques. Nous attendons les directives que nous donneront les autorités. Dès que possible, tous les renseignements vous seront communiqués. Nous rappelons que votre offrande, dans ces circonstances particulières, sera accueillie avec joie sur le compte de l'Église. Le numéro de compte est soit sur le bulletin écho, soit sur le site de notre Église. Nous nous encourageons en tout cas à maintenir les contacts mutuels à partir des moyens technologiques à notre disposition, en attendant le contact physique. Nous avons appris que Portes Ouvertes était dans le besoin. Nous pouvons penser dans notre offrande à soutenir cette œuvre Portes Ouvertes. Merci en tout cas pour votre attention et votre fidélité. Je vous invite maintenant à recevoir l'exhortation et la bénédiction, après laquelle nous chanterons « Confie à Dieu ta route, arc-en-ciel 616 ». Souvenons-nous que sans le Saint-Esprit, Dieu est lointain, Jésus-Christ est dans le passé et l'Évangile reste lettre morte. L'Église n'est qu'une simple association, l'autorité une forme de domination, la mission une vulgaire propagande, la liturgie une conjuration des esprits et la vie chrétienne une morale esclavagiste. Sans le Saint-Esprit. Mais avec lui, tout change. Le Seigneur nous a donné de son eau vive. Lorsque nous la partageons, elle se met à couler de plus en plus abondamment et à flot. Allons donc, la grâce du Seigneur nous accompagne sur nos chemins. Celui qui nous a appelés est fidèle, il réalisera toutes ses promesses pour nous et par nous. Amen.
Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et
superflu. Bientôt tu